Les soldats du feu mobilisés depuis hier sur un incendie dans le secteur de la ZAC Panda à Dimbéa. Des résidents ont encore dû être évacués cet après-midi. D'autres départs de feu ont eu lieu dans la journée à Nouméa, Attendu ou encore Sakamoto. Éric Deschmaker est professeur de droit privé à Melbourne. Il a un intérêt particulier pour le dossier calédonien. Il nous a livré ce midi son analyse de la situation du territoire. Un escadron de gendarmerie posté 24 heures sur 24 à la vallée du Tir pour une sécurisation du quartier qui subit encore aujourd'hui les conséquences des émeutes. La Fédération calédonienne de BTP appelle au respect de la charte de démolition, à la fois pour le respect des règles et de l'environnement, mais aussi pour une saine concurrence. Des jeudis du centre-ville consacré à la joie de vivre, c'est Tahiti qui sera à l'honneur, place des Cocotiers, demain de 9h à 19h. Et puis le sport, Suzanne Wajoka, heureuse de retrouver bientôt l'équipe de France de handball senior, vous l'entendrez dans notre journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. À la une de l'actualité, les feux de brousse qui continuent de mobiliser d'importants moyens avec des conditions de sécheresse et de vent fort propices à la propagation. À Dimbéa notamment, l'incendie qui s'est déclenché hier a nécessité une nouvelle évacuation de résidences cet après-midi entre la ZAC Panda et à Pogoti, Michael Juneski.
Les pompiers qui sont à pied d'œuvre depuis hier face à cet incendie est difficile d'accès. Il sévit depuis 14 heures. Cet après-midi, les flammes sont revenues à proximité immédiate d'un lotissement non loin du pic aux Chèvres, nécessitant un déploiement de moyens immédiats et l'évacuation par les gendarmes de nombreux habitants de ce quartier par mesure de sécurité, avec à la fois des émanations de fumée qui présentent un danger pour les personnes et le feu qui s'est approché à très près des résidences de ces habitants. Écoutez leur témoignage.
On ne pensait pas que le vent allait tourner et venir sur nos habitations. On a vu que la terrasse a pris feu.
On a eu les protections qui sont en dessous le toit, qui sont en plastique, ben, qui ont fondu hein, littéralement. On avait un petit peu sécurisé, on a tout fermé, on est rentré, on n'a pas vu grand-chose, mais on n'a pas été sur la terrasse. Le jardin a un petit peu pris feu, mais c'est, ça, c'est pas grave. Par contre, effectivement, là, les flammes étaient vraiment très impressionnantes et puis avec le vent, ça allait vraiment très très vite. On a évacué très rapidement parce que il n'y avait rien d'autre à faire. Hein. La première fois que je suis rentré dans la maison, ça sent un peu la fumée, mais on avait tout fermé par sécurité. À part l'odeur de brûler, je pense que ça va aller.
En tout cas, je remercie infiniment les pompiers parce que depuis le temps qu'ils sont là, ils sont formidables.
Ils n'ont pas un moment de répit, hein, parce que là, un coup sur Punta La Dorade, un coup sur ZAC Panda, ça part dans tous les sens et ça continue, hein, on n'a qu'à voir. Il y a des points de qui sont encore en feu et avec le vent qu'il y a, je ne sais pas comment ils vont faire.
Hein. On essaie de sauver la maison de ma fille, parce que là, le voisin à côté, vous voyez à côté, là, l'arbre, il a brûlé, là, ben, ça a fait fondre toute la toiture, là, le PVC de la toiture. Là. Donc nous, on essaie d'éloigner le feu des maisons, quoi, des habitations.
Du coup, les garçons sont venus.
Mes deux beaux-fils, mon fils sont là, on essaie de nettoyer un peu pour pouvoir aider les pompiers.
On attend de pouvoir rentrer dans les maisons. Je crois que ma terrasse est brûlée. Si c'est que la terrasse, c'est pas mal que ça s'arrête là. C'était impressionnant. La peur de ma vie, moi. La peur de ma vie. J'ai eu très, très peur. Les flammes ont dépassé la terrasse et la terrasse, on l'a en hauteur. On l'a pas de plein pied. Non, ça a été impressionnant. Et ça a été très vite, très vite. C'est tellement sec aussi que c'est sec, c'est pas entretenu cet endroit-là. Hein. C'est la brousse qu'il y a derrière les maisons. Ça a été très très vite, ouais.
Ce soir, tous les habitants de ce lotissement sont sur le qui-vive, ne pouvant qu'assister au spectacle d'un feu attisé par les vents forts et pouvant se propager très rapidement. Ils vivent encore dans l'inquiétude.
Ça fait déjà presque un mois, on a déjà eu un premier incendie, là on en a un deuxième. Ça a brûlé toute la nuit apparemment. Les voisins ont eu peur hier parce que ça a sauté. C'est la maison d'à côté là, de l'immeuble. Hein. Ouais, de l'autre côté, voilà. Donc on nous a évacués. Les gendarmes sont arrivés, on nous a évacués de l'immeuble. On a pris notre voiture, on est parti, puis là on s'inquiète bien sûr. Hein. Ils sont débordés, hein, les pompiers.
C'est pas la première fois, il y a déjà eu un incendie déjà il y a un mois. Et là, il y a encore la semaine dernière, là de nouveau, là depuis hier.
Eh bien, on a peur. On ne peut pas faire grand-chose d'autre qu'espérer que les pompiers arrivent.
Ça fait 2 jours qu'il faut faire les sacs. Parce que hier, déjà, on a commencé à faire les sacs, on est reparti. On recommence aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça va se finir.
On fait avec depuis hier, on est dans ce cas-là. Parce que c'était la colline hier, c'est en haut. Entre les odeurs et les débris de fumée, et on fait attention.
Et certains habitants n'hésitent pas à faire part aujourd'hui de leur exaspération.
Nous, on a eu un incendie il y a quoi ? 2 semaines de ça ? Donc c'est des gens qui font de leur chance. Pour moi, c'est pas criminel. Hein. C'est des gens qui font régulièrement des champs. On voit très bien où est-ce que c'est parti. Donc ça a menacé notre habitation, mais ça s'était arrêté juste à temps avant la crête. Et là, hier, ça prend. Et en fait, on voit très bien d'où est-ce que commence le feu. Et à cet endroit-là, il y a des champs. Il faudrait que les gens ils prennent conscience que si vous voulez faire un feu, certes, même si l'éco-buage est interdit quand même, mais surveillez vos champs, en fait. Parce que là, regardez les dégâts que ça a causé, c'est jusqu'à couture. Moi, je viens d'arriver du travail, j'ai couru, j'ai passé le feu pour aller sauver mes chiens. Et là, nous, on a des enfants, on a des petits vieux dans les résidences. Nous, on est réactifs, on est jeunes, on travaille pas loin, on peut arriver rapidement. Mais le petit vieux qu'il y a dans notre résidence en chaise roulante, ben lui, je sais pas comment on va faire s'il y a du feu.
Et cet après-midi, deux hélicoptères bombardiers d'eau sont venus appuyer le travail des soldats du feu. Une trentaine de pompiers en tout et une dizaine d'engins pour affronter des flammes évoluant dans des reliefs très difficiles d'accès et pouvant à tout moment menacer les habitations, comme ça a été le cas cet après-midi. Une mobilisation de tous les instants et la fatigue qui va petit à petit éprouver les organismes. Le capitaine Gitoussi, responsable des pompiers de Dimbéa, rappelle plus que jamais les règles à respecter dans cette période de sécheresse et de conditions propices à la propagation des feux de brousse.
Pour l'instant, c'est que là, ça Savane Niaouli. Le vrai message, c'est de vraiment, s'il vous plaît, ne faites pas de feu d'éco-buage quand il y a du vent et de la sécheresse, parce que ça donne ça. Vraiment, on entend que quelquefois, en Nouvelle-Calédonie, l'usage du feu est nécessaire pour faire son jardin, mais s'il vous plaît, pas quand il fait chaud et pas quand il y a du vent. Un exemple très simple, nous sommes depuis hier sur cet incendie, on a eu un accident grave à la route de Coé. C'est les collègues de Païta qui sont venus nous tuiler parce que nous étions pris sur un feu de forêt qui n'est au bout du bout qu'un feu d'herbe.
Et les pompiers de Dimbéa qui ne connaissent aucun répit, avec un deuxième incendie également signalé aujourd'hui, cette fois dans le secteur de la Pointe à la Dorade, ayant nécessité là aussi le déploiement de moyens importants puisque les flammes ont également touché une habitation et menacé plusieurs autres maisons.
Des interventions pour les pompiers de Nouméa a signalé également aujourd'hui à Tindu, à la vallée Sakamoto, avec quelques départs de feu rapidement maîtrisés. À Païta, une habitation était la proie des flammes hier soir au Mont Mou. Les propriétaires étaient absents du logement qui a entièrement brûlé. La piste criminelle est envisagée. Une enquête a été ouverte par les gendarmes. Et toujours au chapitre des interventions des secouristes, vous avez pu l'entendre, un accident de la circulation est survenu hier soir à Dimbéa sur la route de Coé. Un véhicule avec 7 personnes à son bord a fait une sortie de route. 5 blessés ont dû être évacués à l'hôpital, mais leurs jours ne sont pas en danger. Le conducteur était sous l'emprise de l'alcool. L'actualité politique et institutionnelle ce midi avec un invité, Éric Deschmecker. Il est professeur de droit privé à Melbourne. Il s'intéresse de très près au dossier calédonien auquel il a consacré de nombreuses tribunes, Elisabeth Noir.
Et nous avons profité de sa présence sur le territoire pour le recevoir et revenir sur les thèses qu'il expose dans la presse, où vous le disiez. Il signe de nombreuses tribunes, notamment dans le Figaro, dans la revue Conflit. Il a des positions que l'on entend peu exprimer publiquement. Ainsi, au mois de mai, après les émeutes, il a publié un article concernant le corps électoral et intitulé « En Nouvelle-Calédonie, la réforme qui met le feu aux poudres ne va pas assez loin ». Pour lui, si ce projet de loi est scandaleux, ce n'est pas comme le pensent les indépendantistes en ce qu'il entend redonner le droit de vote à certains, mais en ce qu'il continue de le refuser à d'autres, des propos qui peuvent sembler provocateurs.
Mon but n'est absolument pas de provoquer en soi, ça n'a absolument aucun intérêt. En revanche, je crois qu'il est fondamental de dire ce que l'on croit être vrai, même si ça doit faire hurler des gens, même si on sait que ça va les faire réagir. C'est mon rôle d'universitaire et d'essayer de comprendre et de dire ce que je crois juste et pourquoi. Mais en l'occurrence, sur le dégel du corps électoral, je crois avoir tous les principes du droit électoral, du droit constitutionnel avec moi. Les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie sont des élections locales en France. Le principe est donc que, sauf règles extraordinaires, comme celles sous lesquelles nous avons vécu ici en Nouvelle-Calédonie depuis quelques décennies, eh bien, tous les citoyens, tous les électeurs peuvent voter. Ça a été confirmé d'ailleurs par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt. Donc on savait déjà que si la réforme constitutionnelle était passée, elle aurait été censurée par la Cour européenne des droits de l'homme, car n'allant pas suffisamment loin dans ce dégel. C'est-à-dire ce que la Cour européenne dit, c'est qu'il peut y avoir des exceptions très limitées au droit de vote universel des citoyens, mais certainement pas aussi limitées que ce qui était prévu ici.
Autre affirmation d'Éric Deschmecker, l'accord de Nouméa est terminé. Et il en tire des conclusions, pour lui notamment, il ne peut pas y avoir d'accord de Nouméa 2.
Ce processus est achevé, sa mise en œuvre peut être regardée comme complète. La seule chose qui reste de l'accord de Nouméa, donc c'est l'idée que les partenaires se retrouvent autour d'une table pour examiner la situation. Donc on peut les réunir, à supposer d'ailleurs qu'on arrive à trouver qui ils sont, parce que la situation politique est quand même très complexe. Mais il me paraît assez clair qu'il n'y a pas d'accord possible. Tout ce qu'on peut faire est acter un désaccord entre, d'un côté, ceux qui souhaitent très légitimement rester au sein de la France, pour certains aller plus loin vers l'autonomisation des provinces, et de l'autre côté, des gens, et c'est d'ailleurs leur droit le plus absolu, n'ont absolument renoncé à rien. Ils veulent, malgré ces référendums, leur indépendance ou ce faunet de l'indépendance qu'on appelle l'association. Je ne vois pas quel accord est possible. Et donc, à partir de là, il me semble que l'État va devoir prendre ses responsabilités. Ça fait des décennies qu'il se défausse sur les Calédoniens de la responsabilité de trouver un accord. Et trouvez-nous un accord et nous, on le mettra en œuvre.
Le professeur de droit privé estime en effet que c'est à l'échelle nationale qu'il faut réfléchir à un statut pérenne au sein de la France, comme en ont décidé les trois référendums. Cela doit se faire avec une consultation très large des Calédoniens, dit-il, mais ils ne sont pas les seuls concernés. Il affirme également qu'il n'y a pas de peuple calédonien et que l'on ne peut plus invoquer le droit à l'autodétermination. L'une de ses récentes tribunes était intitulée « Pour la survie de la Nouvelle-Calédonie, il faut fermer la porte à toute perspective d'indépendance ».
Ce droit, je suis au regret de le dire, n'existe pas. Je crois que les gens essayent de le trouver dans le préambule de la Constitution de 1958, qui ne dit absolument pas ça dans son second alinéa. Le droit international non plus. Et je pense qu'il est fondamental de ne pas reconnaître ce principe. Et le fait qu'il ne soit pas là, j'en veux en un sens pour preuve, le fait que si il y avait, comme le disent certains, un droit permanent continu des Néo-Calédoniens définis de la manière que vous voulez à demander un référendum pour quitter la France s'ils le souhaitent, eh bien on serait très exactement dans la situation de ce qu'on appelle parfois un État associé.
Éric Deschbecker qui revient justement sur cette notion d'État associé.
L'État associé, on en avait discuté au moment des référendums, c'est une situation dans laquelle une Nouvelle-Calédonie devenue indépendante choisirait souverainement, pour le temps qu'elle veut, de déléguer à un autre pays, la France, l'exercice de ses compétences régaliennes, menées, armée, justice, police, diplomatie, etc. Mais à tout moment, elle peut dire, mais écoutez, nous avons changé d'avis, nous ne voulons plus de vous, vous avez 18 mois pour partir. C'est très exactement ce qu'est un État associé, c'est très précisément ce qui a été refusé à plusieurs reprises lors des référendums. Donc non, il n'est pas possible pour les institutions calédoniennes, pour les représentants du peuple calédonien, de décider par eux-mêmes à tout moment de recommencer l'opération et de reposer la question.
Et nous avons également interrogé Éric Deschbecker sur l'inscription de la Nouvelle-Calédonie sur la liste des territoires à décoloniser de l'ONU.
Symboliquement, oui, c'est important. Je pense qu'il faudrait absolument, non pas demander, mais exiger le retrait de la Nouvelle-Calédonie de cette liste. Ça n'a pas été fait par le gouvernement français pour des questions de politique. Cette peur constante de mettre le feu aux poudres. Ben le feu est quand même mis aux poudres, malgré ses efforts. Je ne comprends pas que ça n'ait pas été fait. Donc, comme vous le savez, vos auditeurs sans doute aussi, mais très brièvement, la Nouvelle-Calédonie, comme beaucoup d'autres territoires, a été placée sur cette liste des territoires non autonomes par l'ONU en 1946, parce que c'était une colonie française. Elle a été enlevée en 1947 parce qu'elle n'était plus une colonie française. La France n'a plus de colonie depuis 1946, je le rappelle quand même. Et elle a été réinscrite en 1986 à la demande d'une clique d'États anti-français. Mais la Nouvelle-Calédonie a déjà respecté tous les critères de décolonisation de l'ONU.
Une interview que vous pourrez réécouter ou revisionner sur le site internet de Radio Rythme Bleu.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, alors que le comité de décolonisation de l'ONU est réuni à New York, est-il utile selon vous que les partisans de la France s'expriment à cette tribune? Si vous pensez que c'est utile, vous tapez 1. Si vous pensez que ça ne sert à rien, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. C'est la réponse à notre question d'hier et 52% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que le gouvernement va réussir à obtenir un consensus sur son plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction. Ils sont 48% à penser que ce ne sera pas le cas. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Le gouvernement a arrêté ce mercredi un projet de délibération portant revalorisation des tarifs de la redevance superficielle perçue au titre du code minier de la Nouvelle-Calédonie. Avec l'abandon de certaines concessions, les recettes de cette redevance ont baissé de 15% entre 2010 et 2024, indique l'exécutif. Des recettes affectées au fonds nickel qui finance des programmes de réhabilitation des sites dégradés par l'activité minière et améliore ainsi le cadre de vie des populations. Le taux taux de cette redevance n'avait pas augmenté en 15 ans. Ce rattrapage va donc générer une hausse de 30% de son tarif par rapport à 2009. L'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie s'intéresse à la refonte du modèle économique calédonien. Dans une note, la CNC propose au pouvoir public deux scénarios de développement économique pour concilier la baisse du coût de la vie et le soutien à la production locale. Quels sont les scénarios envisagés? Comment proposer un système de protection de marché incitatif? Faut-il ouvrir l'économie calédonienne au bassin régional? Nous en parlerons demain avec Stéphane Retterer, le président de l'autorité de la concurrence en Nouvelle-Calédonie, et sera notre invité à 7h30. Dans nos autres rendez-vous d'antenne, comment relancer l'activité des très petites entreprises? Près de 5 mois après le début des émeutes, certains tentent de se relever et c'est souvent compliqué pour les TPE, même si elles peuvent compter sur le soutien de plusieurs organismes. Comment accompagner la relance des TPE? Quelles aides sont mises en place? Est-il encore possible pour les petits entrepreneurs de mener à bien leurs projets? Nous en parlerons demain dans les Jeudis de l'économie, en compagnie de Ségolène Thomas, la directrice régionale de l'ADI en Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, d'Elisabeth Rivière, la présidente de la CMA. Nous serons également en compagnie de Manon Bénard, qui est coordinatrice de projets à Initiative NC, et d'Émilie Olivier, la fondatrice du collectif d'entrepreneurs La Ruche à la Fois. Les Jeudis de l'économie, c'est à suivre demain à partir de midi sur RRB. Et puis, en bref, la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie devient la FINC, la Fédération des entreprises et des industries de Nouvelle-Calédonie. L'objectif, unir les forces vives, industrie, agriculture, BTP, services, commerce et tourisme, pour être plus agile, solidaire et résilient face à la crise qui touche l'ensemble du monde économique. Il est 18h02, nous marquons une première pause dans ce journal avant de développer la suite de l'actualité en Calédonie avec d'abord cette sécurisation renforcée de la vallée du Tir avec un escadron de gendarmerie présent H24. On se retrouve après une courte page de pub.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, pièges préventifs et barrières chimiques.
Déductible de vos impôts. Infos sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
Info Soir, Isabelle Pelletier.
La vallée du Tir fait désormais l'objet d'une présence accrue des forces de l'ordre. Depuis quelques jours, un escadron de gendarmerie mobile est déployé 24 heures sur 24 dans le quartier Léana Colombo.
Et ces effectifs viennent en renfort de la police qui est déjà présente sur le terrain. Malgré la baisse des exactions, la nécessité d'une présence policière est toujours nécessaire. En témoignent les quelques feux, notamment à la salle Anne-Houy, et les quelques affrontements entre émeutiers et forces de l'ordre. Les précisions du commissaire Alexis Marsan, coordonnateur des GPN pour la Nouvelle-Calédonie.
Alors, à l'instant T, vous avez entre 15 et 20 gendarmes qui sont en permanence sur le secteur. Ça, c'est la présence que l'on met pour, dans le cadre de ce qu'on appelle un contrôle de zone. Ça n'est pas exclusif non plus de l'ensemble des patrouilles locales de la police nationale de Nouméa qui vont intervenir sur des affaires du quotidien, celles qui passent en fait par l'appel au commissariat. On voit que de la part des habitants du quartier de la Vallée du Tir, il y a un retour en tout cas favorable de la visibilité. Et en fait, notre métier, c'est aussi une part de visibilité qui participe au sentiment de sécurité des gens du quartier. Il faut répondre immédiatement parce que ça aussi, c'est le sentiment d'abandon commence par là. Quand on ne peut plus répondre à une intervention, ce qu'on appelle nous police secours, c'est le début de l'abandon et c'est contre ça qu'il faut lutter. Il faut être au présent auprès des Calédoniens, auprès des habitants de Nouméa pour leur apporter cette sécurité auquel ils ont droit.
Malgré cette présence des forces de l'ordre et la baisse de l'activité criminelle, la vie des habitants et des commerçants reste bouleversée. En effet, difficile de reprendre une vie normale quand la quasi-totalité des commerces a été brûlée ou pillée. Glenn est le propriétaire d'un des derniers commerces de la vallée du Tir. Sa boulangerie Parisiana est une institution dans le quartier et est ouverte depuis 1981. Malgré la foule amassée à l'entrée, il confie avoir perdu près de 50% de son chiffre d'affaires depuis le 13 mai.
On s'en sort à peine. Moi, j'ai pas de problème avec le voisinage, mais c'est les clients, j'ai un peu peur de rentrer à la vallée. Moi, on a toujours des clients courageux qui viennent. Mais avant, on ouvrait à 2h du matin. Là, c'est plus possible. À 5h, non, il n'y a pas beaucoup de monde à 5h. quand ils ont des pièces, ils achètent viennoiserie, sandwich. Et quand il y a moins de pièces, ben là c'est le pain. Voilà, en ce moment, c'est le pain qui marche. Mais le magasin à côté, je crois qu'il va revenir. Les autres, je ne pense pas qu'ils vont revenir. Hein. Pour l'instant, c'est nous qui mettons l'activité. Après, ben, on fait avec maintenant.
Parmi les habitants du quartier, Ivana, 24 ans, est mère de famille. Elle se dit rassurée par la présence des forces de l'ordre, car le calme n'est pas entièrement revenu à la vallée du Tir.
Il y a des soirs, ça va, il y a des soirs, c'est mouvementé. Surtout arrivé vers jeudi, vendredi, comme ça. Les jeunes, ils commencent à boire et c'est reparti, ils refoutent des saletés sur la route, c'est la même chose, quoi. Après la nuit, ben, les FDO, ils reviennent, ils refont du bruit. Après, ils se reposent pas bien, quoi. On a tout le temps peur aussi. Parce que des fois, il y a des cailloux qui atterrissent sur nos toits. Quand je sors, ça va parce que tout le monde, on se connaît tous ici, tous les jeunes. C'est surtout pour faire les courses. Parce que les petits magasins comme ça, c'est un peu plus cher. On est obligé d'aller un peu plus loin pour trouver des couches câlines surtout. Du lait, parce que le lait aussi, il est cher dans les petits magasins. Pour moi, c'est plus pareil. Surtout pour reconstruire, après, ce sera dur.
Pour rappel, près de 7000 forces de sécurité sont présentes sur le territoire.
Un pas de plus vers un retour à la normale. Les liaisons des bus rails reprennent dès ce vendredi sur la côte Est. Le SMTI annonce que la route entre Yengen et Wailou étant à nouveau accessible, les usagers pourront bénéficier de nouvelles lignes à la fin de la semaine. Elles desserviront Yengen, Poindimié, Touo, Ponériouin, Wailou, Puebo et Koné. Seules les lignes entre Nouméa, Tio et Nouméa Yaté restent suspendues au vu de la situation. Les horaires sont à retrouver sur le site internet du rail. Après 5 mois de blocage de la RP1 au niveau de la tribu de Saint-Louis, les forces de l'ordre ont rouvert partiellement la route. C'était le week-end dernier. Malheureusement, dès le premier jour, un automobiliste a été agressé au volant de sa voiture. Désormais, les verrous sont levés à raison de 6 heures par jour. La route est donc ouverte de 6h à 9h et de 15h à 18h. Mais les habitants du Mont-d'Or-Sud, comme Valérie, Pascal et Sarah, sont encore nombreux à privilégier la voie maritime et les navettes.
Je favorise la navette maritime parce que la route n'est pas encore sécurisée. On appréhende une femme seule. Enfin, on est nombreux à penser comme ça. Il va falloir un peu de temps, je pense.
C'est la sûreté. Quand vous avez des rendez-vous programmés, vous ne savez pas s'il va y avoir un problème. Si vous êtes coincé, votre rendez-vous, il est raté sur le plan médical, c'est que c'est compliqué d'en avoir. Donc ça reste priorité à la mer, c'est plus sûr, tout simplement.
Les horaires ne me correspondent pas forcément. Et puis j'ai un peu peur pour ma voiture, hein, comme beaucoup, je pense. Hein. Qu'il y ait des carjacking ou autre. Donc je préfère prendre la navette, même si on a encore pas mal d'attentes au niveau des navettes. Quoi, hein.
C'est plus sûr ?
C'est plus sûr pour l'instant, oui.
Ce matin à Moselle, toutes les navettes au départ et à l'arrivée du Vallon d'Or étaient remplies. La Fédération calédonienne de BTP appelle au respect de la charte de démolition responsable. Si la FCBTP indique avoir recensé les entreprises désireuses de s'engager dans cette démarche qui impose des règles strictes de protection de l'environnement, de gestion durable des déchets et de concurrence loyale, elle dit aussi constater que certaines sociétés dérogent à ces bonnes pratiques. On écoute les précisions de Benoît Meunier, c'est le président de la FCBTP.
Il y a eu plusieurs remarques sur des non-respects de procédures. Et donc la Fédération calédonienne du bâtiment et travaux publics a été mise en cause. Et donc nous, on rappelle bien qu'on a signé cette charte, que les entreprises de la Fédération l'ont signée et que soit elles font partie de la Fédération et elles doivent respecter scrupuleusement cette charte, ou soit elles ne font pas partie de la Fédération. Il y a tout un volet administratif de déclaration. Donc il faut faire une déclaration d'ouverture de chantier auprès de la province sud. Et puis il y a certaines règles à respecter également au niveau des dépôts des déchets. Il y a des déchets dangereux qui ne peuvent pas être stockés n'importe où. La charte décrit bien toutes ces procédures. Si les entreprises ne respectent pas le traitement des déchets dangereux, qui ont un coût, il y aura une concurrence déloyale entre les entreprises de déconstruction.
La FCBTP qui appelle donc toutes les entreprises du secteur à honorer leurs engagements. Il en va, affirme la Fédération, de l'avenir et de la crédibilité de la profession.
RRB 18h09.
Dans le cadre des semaines d'information de la santé mentale, les SISM, le centre hospitalier Albert Bousquet, entend mettre en lumière ses initiatives en matière d'activité thérapeutique pour une réhabilitation psychosociale. Il s'agit d'ateliers d'accompagnement des patients en parallèle de leur parcours de soins, comme des ateliers de jardinage, du nautisme pour le contact avec la nature, d'art-thérapie ou encore d'activités ludiques pour plus de socialisation et de transversalité entre les patients des différents services. Une journée de sensibilisation à la santé mentale et de prévention avait lieu aujourd'hui à Boulou-Paris. L'objectif, initier les professionnels à des outils de réhabilitation et discuter des bonnes pratiques. Une autre journée de sensibilisation à la santé mentale prendra place à Bouraille le 16 octobre prochain. Tout le monde est concerné, tout le monde sait ce que c'est et pourtant, il reste encore beaucoup de méconnaissances autour du sujet. Pendant les vacances scolaires, le service prévention, insertion et citoyenneté à la ville de Dimbéa organise des ateliers de prévention autour des règles, Charlotte Coulson.
Et aujourd'hui, c'est à la médiathèque de Dimbéa que se déroulaient deux activités autour des menstruations. 10 enfants âgés de 10 à 12 ans ont pu confectionner leur propre protection hygiénique réutilisable. Elles étaient encadrées de bénévoles de la ressourcerie, une organisation valorisant la récupération et l'autoconfection. Après l'atelier couture, les jeunes filles pouvaient discuter anatomie, douleurs pendant les règles ou encore protection périodique. Un atelier animé par Audrey, agente de prévention au comité de promotion de la santé sexuelle et affective, le CP2S.
C'est du coton blanchi en général, chimiquement quand même.
On parle de puberté, on parle des règles là pour les jeunes filles aujourd'hui, de précarité menstruelle aussi, parce qu'il faut savoir qu'il y a une femme sur trois qui un jour dans sa vie n'a pas pu s'acheter de protection hygiénique. Donc c'est important pour nous d'en parler, de parler des nouvelles méthodes de protection périodique comme les culottes menstruelles, les serviettes lavables et tout ça.
Et lui dire, ah ben, ça te fera des économies parce que tu n'auras pas acheté ça tous les mois.
C'est énorme quand même le prix, ce qu'on dépense. C'est mieux de prendre ça là parce qu'on peut laver, puis ça fait des économies aussi sur notre argent.
Les culottes menstruelles, et on peut les garder plus de temps et ça pollue moins.
On est en train de faire des cotex pour les règles. Si on a nos règles, au lieu de mettre des cotex qu'on achète au magasin, que ça coûte cher, on fabrique avec de la couture. Après, on peut les laver avec de l'eau, on mouille avec de l'eau, on peut mettre dans la machine à laver. Comme ça, on peut les utiliser plein de fois.
Si tu as besoin de te changer, c'est un peu la galère.
Et des ateliers qui seront reconduits dans 6 centres aérés de Nouméa et du Grand Nouméa pendant toute la durée des vacances scolaires.
Demain, la ville de Nouméa relance les jeudis du centre-ville. Tahiti sera ainsi mise à l'honneur de 9h à 19h sur la place des Cocotiers. L'occasion de vibrer au rythme des danses et chants traditionnels, de savourer les spécialités culinaires ou encore de découvrir l'artisanat polynésien. Les précisions de Manuia Chongtai, responsable de ce jeudi de Tahiti.
Nous organisons le jeudi Tahiti et le thème qui a été choisi, c'est la joie de vivre. Pourquoi la joie de vivre? Vous savez tous que nous avons connu des moments difficiles. Pendant 5 mois, on a traversé des moments difficiles. Et chez nous, à Tahiti, malgré les problèmes, on garde le sourire. Et c'est pour ça qu'on a voulu maintenir ce thème-là, la joie de vivre. Il y a 120 exposants déjà, donc ce qui est bien, malgré les difficultés. On va retrouver de l'artisanat, on va retrouver du culinaire, donc il y a tous les plats. Il y aura le concours de Fafarou, comme d'habitude, vers midi. Il faudra venir. Il y a une élection de Miss Maman, élection du papa, le plus beau papa de la Nouvelle-Calédonie. Il y aura beaucoup d'ateliers de tressage aussi. Il y aura un tamouré marathon et beaucoup d'animations et des groupes de danse qui vont défiler toute la journée.
Le jeudi du centre-ville spécial Tahiti pour la joie de vivre, c'est demain de 9h à 19h sur la place des Cocotiers. Il est 18h13. Nous marquons une seconde pause dans ce journal avant de développer l'actualité régionale et l'actualité sportive. On se retrouve tout de suite.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Isabelle Velquier.
Avec l'actualité régionale, 100 millions de dollars d'amende, soit 7 milliards en francs pacifiques. C'est la peine infligée à Qantas par la Cour fédérale australienne. Et c'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
La commission de la concurrence et de la consommation avait saisi la justice après avoir découvert que, pendant plusieurs années, la Qantas avait sciemment vendu des billets d'avion sur des vols qu'elle avait préalablement annulés. La compagnie avait ensuite tardé à informer ses clients que les vols sur lesquels ils avaient réservé les sièges n'auraient pas lieu. Au total, près de 87 000 passagers potentiels avaient été victimes de cette arnaque. En réponse, la Cour fédérale a décidé d'infliger une amende exemplaire de 100 millions de dollars australiens, soit environ 7 milliards 330 millions de nos francs, à la Qantas. La compagnie devra également débourser une somme équivalente à 1 milliard 500 millions de nos francs de compensation en faveur des clients qu'elle a délibérément frustrés. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
9 millions de dollars pour aider le Pacifique à atteindre ses objectifs climatiques, une contribution du gouvernement australien au hub régional des contributions déterminées au niveau national du Pacifique, un hub créé en 2017 et qui fournit des ressources et de l'expertise à 14 pays et territoires de la région pour respecter leurs engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l'accord de Paris. Le sport du football avec la sélection calédonienne qui disputera demain son premier match des éliminatoires au Mondial. Michael Genieski.
Oui, les Calédoniens sont partis lundi aux îles Fidji dans l'optique de ce premier rendez-vous. Ils affronteront donc la Papouasie-Nouvelle-Guinée à Suva. Nos représentants ont d'ailleurs retrouvé les Calédoniens évoluant hors du territoire, comme César Zeoula qui sera le capitaine de la sélection après une préparation largement contrainte pour nos footballeurs en raison évidemment de la crise insurrectionnelle. La campagne des éliminatoires au Mondial débute demain après-midi. Le coup d'envoi de ce match Nouvelle-Calédonie-Papouasie-Nouvelle-Guinée sera donné à 15h, heure de Nouméa.
Du handball avec Suzanne Wojcicka, prête à faire ses premiers pas dans la cour des grands.
Oui, on vous le disait, après cette annonce de la Fédération française la semaine dernière, l'ancienne joueuse de Dimbéa, partie en métropole en 2016, qui sera donc avec l'équipe de France senior. Elle a déjà été capitaine de l'équipe de France junior. Elle a pris part à plusieurs compétitions internationales. À 23 ans, elle sera pour la première fois sous le maillot des handballeuses tricolores leur vice-championne olympique 2024. Elle fait partie de la liste des joueuses qui prendront part à un stage avant d'affronter la Hongrie en match amical. Suzanne Wojcicka, l'ailière gauche du club de Besançon, nous a fait part de sa réaction, de son état d'esprit à l'approche du grand rendez-vous.
Lorsque j'ai su la nouvelle à la fin de l'entraînement, ma première réaction c'était mes larmes de joie, de fierté, comme un accomplissement un peu. Donc oui, j'étais super contente et très heureuse d'apprendre cette nouvelle et surtout très surprise. Mon état d'esprit aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment envie de me donner à fond encore plus sur les entraînements, sur les matchs, être plus exigeante envers moi-même, disciplinée et vraiment concentrée à chaque fois sur les entraînements et sur les matchs et vraiment me donner à fond quoi. Pour les deux matchs contre la Hongrie, un peu stressée de ces deux matchs, mais je pense que c'est du bon stress et vraiment j'ai hâte d'être sur les deux matchs pour vraiment prendre énormément de plaisir, que ce soit sur les matchs ou même sur les entraînements.
Voilà pour la réaction de Suzanne Wojcicka. Les 24 et 26 octobre prochains, donc, l'équipe de France féminine de handball senior fera face aux Hongroises sur les terrains de métropole avec la Calédonienne sous le maillot bleu.
Merci beaucoup Mickaël Genieski, il est 18h18. On va passer maintenant à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Nicolas.
Alors, cette nuit, le ciel sera largement étoilé après la dissipation des nuages en soirée. L'alizée de sud-est faiblira autour de 10 nœuds et deviendra variable faible sur l'ouest. Les températures de la nuit évolueront peu, de 18 à 21 degrés près des côtes et de 14 à 17 degrés dans l'intérieur et aux îles. Demain matin, sur l'île des Pins, la pointe sud est marée, les nuages seront plus présents et pourront donner quelques ondées. Ailleurs, le temps restera agréable et le soleil l'emportera. Le vent de sud à sud-est s'établira entre 5 et 10 nœuds, atteignant 10 à 15 nœuds sur la pointe sud. L'est et les loyautés seront souvent déventés.
Merci beaucoup Nicolas pour cette météo et pour votre accompagnement technique. Il est 18h19. C'est la fin de ce journal. Donc je vous rappelle l'information principale, hein, ces feux qui sévissent sur le Grand Nouméa, des feux qui sont souvent d'origine volontaire avec des sapeurs-pompiers qui restent mobilisés. Et la ville de Dimbéa qui indique que la famille sinistrée, donc dans ces feux de brousse, a été prise en charge par le CCAS de la ville. Après ces trois départs de feu en 24 heures, outre que les actes de malveillance, ces écobuages mal maîtrisés, qui sont la principale cause de ces incendies, la municipalité rappelle que l'usage des feux est interdit durant cette période écobuage, barbecue et feu de camp, période bien sûr de sécheresse et de vent fort qui sont tout à fait propices à la propagation des feux.